bienvenue dans cette émission. Situation sécuritaire au Nord Kivu. La communauté humanitaire est profondément troublée par les graves atteintes au droit international humanitaire commises ces derniers temps, avec des combats ayant coûté la vie à de nombreux civils, dont des femmes et des enfants. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo exprime sa vive préoccupation face à la nouvelle escalade de violence dans la province du Nord Kivu, notamment à Mueso, où un bombardement dans un quartier résidentiel le 25 janvier a causé la mort de 19 personnes et blessé plus de 20 personnes. Bruno Lemaki l'a exprimé dans un communiqué publié hier lundi 29 janvier. Il rappelle toutes les parties au conflit au devoir de protection des populations civiles. Celles-ci ne sauraient être que la cible des combats et ont le droit de recevoir les secours appropriés, dit-il. Quelle lecture faire de la déclaration de la communauté humanitaire au sujet du sort des populations civiles dans la guerre du M23? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Il est avocat au barreau de Goma et Kinshasa Matete. Il est également vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable de cette province. Bonsoir Maître Jean-Paul Lumbulumbu.
Bonsoir, bienvenue.
Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Nord Kivu. Bonsoir Henri Pacifique Mayala.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Et lui, il n'est pas encore, il va nous rejoindre, c'est Télésphore Mitondé, qui est le rapporteur de la société civile et des massifs au Nord Kivu. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, la communauté humanitaire s'est dit profondément troublée par les graves atteintes au droit international humanitaire commises ces derniers temps avec des combats au Nord Kivu, des combats ayant coûté la vie à de nombreux civils, dont des femmes et des enfants à Mueso. Un bombardement dans un quartier résidentiel le 25 janvier dernier a causé la mort de 19 personnes et blessé plus de 20 autres personnes. Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarki, dans un communiqué publié hier lundi, rappelle toutes les parties au conflit, les devoirs de protection des populations civiles. Celles-ci ne sauraient être la cible des combats et ont le droit de recevoir les secours appropriés, dit-il. Les détails avec Denise Lukeso.
Selon OCHA, les conséquences humanitaires de l'intensification récente des violences sont alarmantes. Environ 8000 personnes déplacées internes ont trouvé refuge près de l'hôpital de Mueso, ce qui fait craindre les risques d'un nouveau drame si le combat s'intensifie à proximité de cette installation vitale qui doit être protégée selon les droits internationaux humanitaires. OCHA parle de plus de 250 000 personnes qui ont actuellement besoin urgent d'assistance humanitaire dans la zone de santé de Mueso. Dans ces communiqués, Bruno Lemarki, le coordonnateur humanitaire, insiste qu'il est crucial de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires et des civils afin de permettre que l'assistance leur parvienne et empêcher une aggravation de la situation humanitaire. Plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées au Nord Kivu à la suite des conflits. Et ces personnes ont un accès limité aux services de base, déplore OCHA. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Merci à vous, Denise Lukeso. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, avocat au barreau de Goma et Kinshasa Matete, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, notable de cette province. Comment vous réagissez à ces communiqués des humanitaires, Maître Jean-Paul Lumbulumbu?
Merci beaucoup, Guy Maté. Je voudrais tout d'abord, au nom de toute la population du Nord Kivu, parce qu'en tant que vice-président de l'Assemblée provinciale, je demeure encore en fonction jusqu'à la reprise. Cette population, je voudrais adresser toute ma compassion, toute ma solidarité à toutes les familles des victimes de massacres que nous continuons à vivre dans le territoire de Massissi. C'est aussi le cas dans le territoire des Routchour, où il y a beaucoup de faits qui ne sont pas portés à la connaissance de la presse. Je voudrais tout d'abord condamner de la manière la plus ferme ces massacres dont est l'auteur, notamment l'armée rwandaise qui se cache derrière le M23 et continue à assurer la population congolaise que, conformément à la décision et l'attitude, le comportement affiché par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui la population congolaise vient donner sa confiance, la question de la sécurité sera au premier plan de priorité de notre gouvernement. C'est pourquoi je voudrais transmettre message d'espoir, un message de compassion, un message de solidarité à toute la population, à toutes les victimes de ces derniers bombardements du M23. Je voudrais en même temps partager la préoccupation de la communauté humanitaire. Cette question, trois questions principales. Nous avons d'abord la question de la protection. Il s'agit de la protection des personnes déplacées. On a constaté que dans un certain temps, il y a des déplacés qui étaient en train de retourner déjà chez eux parce qu'il y avait des efforts qui étaient consentis sur le front militaire et qui permettaient à ce que certains déplacés internes puissent gagner leur fonds, leur famille. Mais aujourd'hui, ces mêmes déplacés se trouvent être obligés de se déplacer encore. La question de la protection, donc, elle se trouve être majeure. À part la question de la protection, la question de l'assistance humanitaire. Il est vrai que les attaques que vient de connaître la population de Massis en ce moment, ces attaques ne sont pas fortuites. On sait que le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de passer par les cycles électoraux. Les institutions sont en train de se réorganiser pour pouvoir prendre l'élan de la gestion du deuxième mandat du chef de l'État. Et que ces bombardements interviennent au moment où l'Assemblée nationale est en train de valider les mandats des élus qui ont été envoyés par la population. Donc le contexte est tel que l'on veut pousser le chef de l'État, n'est-ce pas, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à poser des actes immédiats. Pourtant, nous savons comment il agit. Il agit avec efficacité, il agit avec sagesse, il a vu avec prudence. Je crois que la communauté internationale mérite l'attention du gouvernement de la République afin de venir dans un premier temps aux rescousses de toutes les victimes de déplacés. Ils sont très nombreux. Le communiqué de Bruno Le Marquis renseigne près de 8 millions de déplacés aujourd'hui. Je pense que c'est une situation humanitaire qui interpelle non seulement la communauté internationale au niveau sous-régional, mais également la communauté internationale au niveau international. La République démocratique du Congo, en ce moment, le gouvernement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et qui est encore là, a besoin de l'appui de cette communauté internationale, non seulement pour mettre un terme de manière définitive à cette barbarie du Rwanda qui ne fait que sévir notre population au nord Kivu et dans les territoires de Beni, mais également apporter un secours humanitaire à tous ces déplacés, à ces enfants, des milliers de enfants, des victimes, des innocents, qui aujourd'hui se retrouvent être obligés de passer nuit dans des bâches, de passer nuit à la belle étoile. Je pense que cette préoccupation profonde de la communauté internationale et le communiqué de Bruno Le Marquis, c'est un communiqué qui doit nécessiter et qui doit attirer l'attention particulière non seulement du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais également de toute la communauté internationale, parce qu'il y a une situation humanitaire qui nécessite à ce que tous les partenaires internationaux, tous les partenaires humanitaires interviennent en faveur de nos pauvres populations victimes de la barbarie rwandaise qui s'occulte derrière le M23.
Jean-Paul Bolumbu, quel est l'élément qui vous pousse à établir les liens entre l'escalade sur le terrain et la situation politique de la RDC pour le moment?
Mais écoutez, en tant qu'animal politique, je ne fais que faire le lien. Comment se fait-il que c'est en ce moment seulement où le chef de l'État vient de prêter serment? Il vient de prendre le flambeau, il vient de prendre les nouvelles responsabilités lui confiées par la population congolaise après avoir été massivement élu. Je souligne 73%. C'est une première dans notre pays. Comment se fait-il que c'est pendant les moments où l'Assemblée nationale, où il y a des élus nationaux, est en train d'amorcer la procédure pour valider les mandats des nouveaux élus, parce que ce sont ces élus-là qui vont prendre en main les destinées de notre peuple, comment comprendre que c'est seulement en cette période-là que l'armée rwandaise, derrière laquelle se trouve le M23, décide de larguer des bombes dans le territoire de Massis. N'oubliez pas, Massis, Mouesso, c'est à quelques kilomètres de la ville de Goma. Donc, l'effet n'est pas bénin, l'effet n'est pas gratuit sur le plan politique. Il y a possibilité de faire un lien entre l'opportunité. Ça veut dire que l'armée rwandaise et l'M23
ont réfléchi sur l'opportunité d'attirer leur attention en massacrant les populations civiles, en larguant des bombes sur Massissi. Malheureusement, nous avons plus d'une vingtaine de compatriotes qui viennent de perdre leur vie, plus d'une vingtaine de blessés. C'est une situation qui appelle à l'intervention urgente, non seulement du gouvernement de la République, mais également de toute la communauté internationale.
Oui, mais et vous, en tant qu'avocat, parce que vous êtes aussi avocat, et à partir du moment où les civils commencent à être les principales victimes, n'est-ce pas, dans ces affrontements, est-ce qu'on ne peut pas déjà initier des actions sur le plan judiciaire avec espoir, n'est-ce pas, de dissuader les différents belligérants?
Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles la population congolaise a encore une fois accordé sa confiance au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est parce que c'est pendant son premier mandat que nous avons vu le ministre de la Justice, son Excellence Madame Rose Mutombo, qui a amorcé des procédures vers la Cour pénale internationale tendant à traire le Rwanda comme étant l'auteur d'un certain nombre d'actes de génocide et de crimes contre l'humanité à l'endroit de la population congolaise. Et ça, c'est un acte louable. Et je pense que les images que nous venons de voir à travers les réseaux sociaux sont des preuves supplémentaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo a ajouté comme preuve, comme élément supplémentaire à cette plainte déjà qui avait déjà été initiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour pénale internationale. Ceci confirme que la position de la République démocratique du Congo tendant à démontrer qu'il y a crime contre l'humanité, qu'il y a crime de guerre contre les populations civiles en République démocratique du Congo, cette position-là est aujourd'hui appuyée et continuera à être appuyée par des preuves comme ce que nous venons de constater et d'écrire malheureusement dans les territoires de Massissi, notamment à Mouesso.
Et sur le plan politique, quelles sont les actions qui peuvent être menées?
Ben écoutez, sur le plan politique, il faut reconnaître que la quatrième législature est en train de se composer. À peine les députés nationaux sont en train d'amorcer la procédure de validation de leur mandat. Le président de la République a déjà prêté serment en tant que chef de l'État et garant des institutions de la République. Je pense que l'article 202 de la Constitution, le reconnaissant comme étant le souverain en matière de protection des populations civiles et surtout en matière de sécurité, il lui appartient à lui de prendre des mesures urgentes. Je pense que ceux qui l'ont suivi à travers les médias, notamment à travers Top Congo, ont lu en lui l'intention de pouvoir dire au Rwanda, N.O.N., cette histoire doit cesser. S'il faut convoquer, s'il faut demander l'autorisation d'une guerre contre le Rwanda, il a dit clairement qu'il sollicitera de l'Assemblée nationale et du Congrès l'autorisation pour faire une guerre contre le Rwanda. Et nous, en tant que population congolaise, nous l'avons massivement élu pour l'encourager dans cette finalité-là, ça veut dire de dire non, N-O-N au Rwanda. Ces génocides, ces crimes contre l'humanité doivent cesser en République démocratique du Congo.
Merci. On me signale que M. Téléphore Mitendeke est là. M. Téléphore Mitendeke, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là. Bonsoir.
Oui, je suis là. Bonsoir. On n'a pas eu le temps de se saluer.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir à tous les co-débatteurs. Bonsoir à tous les millions d'auditrices et auditeurs de la radio Okapi à travers le monde.
Et je rappelle que vous êtes rapporteur de la société civile de Massissi au Nord Kivu. Et comment vous réagissez, n'est-ce pas, à ces communiqués de la communauté humanitaire qui est profondément troublée par les graves atteintes aux droits internationaux humanitaires commises, n'est-ce pas, ces derniers temps avec des combats au Nord Kivu qui font plus de victimes parmi les civils?
Ici est de noter que ces communiqués revêtent un caractère, en tout cas, un caractère d'alerte au plus haut niveau parce que il est aujourd'hui évident qu'on puisse souligner la précarité vitale qui traverse les populations de toutes les entités touchées par cette barbarie terroriste du Rwanda et compagnie sous les labels M23. Et que donc ces communiqués de la coordination humanitaire, en tout cas, révèle la réalité du terrain parce que si vous arrivez dans les différentes entités touchées, Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est donc, on ne sait plus parler de la vie pour les populations congolaises qui vivent cette partie du pays. Et que donc, ces communiqués a encore une fois montré à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'au regard de toutes les alertes déjà faites ou les alertes qui se font au quotidien, il y a encore une fois la montée vertigineuse de cette calamité qui écume la région, au-delà de toutes les formes de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression qui ne cessent de subir les populations congolaises de cette partie de la République. Et donc, c'est un communiqué qui, en tout cas, essaie encore une fois d'illustrer la révolte que pouvait avoir le peuple congolais, qui essaie de susciter également l'opinion afin que chacun puisse sortir, en tout cas, du silence, pour ceux-là qui sont dans le silence et sournois et coupables ou complices, afin de comprendre qu'il s'agit de vies humaines qui sont en péril au nord Kivu, et plus particulièrement dans les entités touchées. C'est donc, en tout cas, un communiqué qui illustre bel et bien la précarité que nous traversons, au nord Kivu. Aujourd'hui, on ne sait plus faire la comptabilité des déplacés, et que, au-delà des déplacés, c'est toutes les populations, que ce soit les populations qui accueillent les déplacés, que ce soit toutes les catégories vivant dans les différentes parties, on ne sait plus parler de la vie. Et que donc, on est en vie parce qu'on ne reste qu'avec les souffles de vie, mais en ce qui concerne les autres conditions de vie, on ne sait plus en parler dans nos différentes entités.
Oui, Téléphone, il me donnait que, à partir du moment où les quartiers résidentiels sont touchés par ces différents bombardements, et cela veut dire que les belligérants, aussi bien du côté des rebelles que des forces gouvernementales, ont établi leur position dans la cité. Et comment vous expliquez cette extension des combats dans la cité où habitent les civils?
Écoutez, c'est pour cela d'ailleurs que c'est pour cela qu'ils sont appelés terroristes. Et vous savez que ce qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui comme crime, vous avez vous-même épinglé les éléments constitutifs du bilan macabre qui en tout cas enregistré dans un intervalle de moins d'une semaine à Mweso dans la cité de Sake. Et vous avez suivi parce que cette hier, ils ont encore bombardé la cité de Sake. Et là, on a pu enregistrer encore 8 personnes blessées. Et que donc, pour le M23, c'est leur caractère terroriste qui s'illustre par les actes. Et c'est de là que la communauté internationale doit en tout cas se réveiller. Si jamais la communauté internationale reconnaissait que la République démocratique du Congo est un État ou l'un des États à travers le monde, et de comprendre qu'en République démocratique du Congo, il y a des citoyens qui ont droit à la vie comme tous les citoyens du monde, parce que ce n'est pas que les entités sont tout plus proches des positions qu'elles soient bombardées actuellement. Si vous regardez, par exemple, les bombes qui sont tombées dans la cité de Sake, ce sont des bombes venues du couloir presque du couloir de Karuba. De Sake à Karuba, il y a une certaine distance. C'est donc de façon délibérée que les M23 s'attaquent aujourd'hui à des agglomérations pourtant surpeuplées. Parce qu'il faut noter que la cité de Mweso, qui avait annoncé d'abord sa population initiale et qui a rencontré encore une fois ou qui a accueilli plusieurs milliers de déplacés depuis que la cité de Kichanga était tombée entre les mains de ces terroristes rwandais, il y avait d'autres entités comme Busumba, Kibarizo, qui aussi avaient déversé leur population dans la cité de Mweso. Toutes ces populations étaient concentrées dans cette cité. Ayant été victime de ces bombardements, je voudrais ici profiter de cette occasion pour éclairer la lanterne que la population qui était prise en otage par les terroristes du M23 dans la cité de Mweso, a la grande partie ou la quasi-totalité de cette population, après les derniers crimes commis par ces terroristes dans cette cité, la population a choisi de prendre diverses destinations. Donc pour aujourd'hui, que ce soit les déplacés qui étaient dans la cité de Mweso, que ce soit la population haute, aujourd'hui on ne sait plus tracer la destination parce qu'il y a une partie qui a pris la voie de la brousse, soit en territoire de Rutshuru ou en territoire de Masisi. D'autres habitants ont pris la direction du territoire de Walika, les voisins vers Pinga. Il y en a même une autre partie de la population qui a quitté la cité de Mweso pour rentrer encore une fois dans la cité de Kichanga, pourtant déjà prise en otage. Donc vous comprenez que c'est une population qui ne se plie à quel pied danser et qui n'a plus de choix. Si et donc... vous prenez la cité de Sac en deuxième lieu, la cité de Sac, c'est une cité, en tout cas surpeuplée, et qui avait associé aussi, ou qui a associé plus de 80 000 familles ou ménages déplacés accueillis là-bas. Et que donc, pour nous aujourd'hui, il est à considérer que le M23 a choisi la voie de s'attaquer contre les différentes grandes agglomérations de la République démocratique du Congo pour causer des massacres ou pour commettre des massacres à ciel ouvert contre les populations congolaises. Et ce n'est pas parce que ces agglomérations sont proches de leur position qu'ils sont en train de s'attaquer aux différentes populations, mais il s'agit, à notre niveau, il s'agirait d'un projet contre la population congolaise, et ce projet n'est autre qu'un projet de massacre pour exterminer le peuple congolais, et c'est de là qu'il faut situer la gravité même de la violation des principes sacro-saints des relations internationales et du droit international et dans les chefs de ces terroristes ou de ces guignols, les Rwandais, sous cette étiquette du M23. C'est donc un projet contre la population congolaise et non pas un projet et non pas une situation qui se justifie sur le plan de la géographie ou du positionnement de leur quartier général.
Merci Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire de Kivu. Quelle lecture vous faites de la déclaration de la communauté humanitaire au sujet du sort des populations civiles dans cette guerre du M23?
Alors, bonsoir Guy Maté, bonsoir aux co-débatteurs. C'est quand même assez déconcertant de toujours discuter sur des questions qui nous concernent la plupart des fois sous interpellation étrangère. Certes que ce communiqué, c'est une réalité sur le terrain, et personnellement, ça me dérange beaucoup d'entendre un président honoraire de l'Assemblée provinciale de de la même entité, député et avocat, juriste de formation, à s'atteler sur des faits qui ne représentent pas exactement qui ne donnent pas exactement la meilleure compréhension de la situation.
Et vous qui semblez comprendre bien la situation, qu'est-ce que vous avez comme élément, et n'est-ce pas, d'information que nous n'avons pas, des éléments supplémentaires?
Je n'aimerais pas partir sur les ajouts, j'aimerais tout d'abord circonscrire les faits et nous interpeller, nous tous, à une certaine franchise à notre propre égard et à l'égard de nos concitoyens, parce que bientôt, il va faire 600 jours que Bounagana est sous occupation étrangère, et nous avons eu, durant tout ce temps, la même personne qui a assuré le rôle de garant de la République et essayé de vouloir abandonner certaines des responsabilités ou dédouaner certaines personnes de nos responsabilités, ne nous aide pas à avancer dans la compréhension afin de trouver des solutions pérennes. Et cela étant, je dis que la situation est en train de se détériorer davantage, parce que de part et d'autre, les acteurs au conflit ne semblent pas avoir de priorité ou ne semblent pas, en tout cas, bien comprendre ce que représentent les priorités d'autres parties. Et malheureusement, ce sont les populations civiles, les populations locales, qui en payent le lourd tribut. Ici, je crois que cette interpellation de la communauté humanitaire au Congo met à nu notre inefficacité, beaucoup plus des responsabilités des décideurs politiques qui ont les mêmes ou mieux encore les leviers à pouvoir utiliser pour régler cette situation. C'est une situation qui a connu, qui continue d'avoir un précédent, parce qu'en 2013, le M23 a été vaincu sous un schéma qui plus ou moins se présente aujourd'hui sous nos yeux, mais malheureusement, cette situation n'a jamais été prise au sérieux. La personne supposée prendre les bonnes décisions pour régler cette situation a été beaucoup plus préoccupée par les questions électorales, les questions d'ordre politique, et pendant ce temps, la sécurité qui se présente la première priorité et qui a toujours été
présentée en tant que telle dans les multiples promesses, n'a jamais fait dans la pratique la priorité en termes de sa résolution. Pour moi, l'interpellation ici, c'est que pour ce quinquennat que nous amorçons, on essaye d'être assez proactif, de lier la pratique à la parole. Dans quel cas nous pouvons accompagner cette communauté humanitaire? Il est quand même très paradoxal que nous ayons un gouvernement qui appelle au départ de cette même communauté internationale, je dis la MONUSCO, et qui continue de faire appel à cette même communauté internationale pour résoudre ces problèmes. C'est vrai qu'il y a une question morale sur la protection des civils, une question qui peut sembler être départagée, mais à titre de priorité, il y a certaines personnes qui portent cette responsabilité et qui ne sont pas en train de faire leur travail. Alors, essayer de les dédouaner revient à faire du surplace, et pour les populations locales, Massissi, Mouchou, Miragongo, c'est vraiment pitoyable que ce soit les mêmes personnes qui doivent porter leur voix, qui se retrouvent dans des positions à défendre l'inefficacité ou l'irresponsabilité à agir de nos décideurs. Donc, pour moi, en lisant ces communiqués, c'est pénible parce que on devrait prendre certaines responsabilités en tant que pays indépendant. Et depuis 60 ans, on continue à subir et nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte que, effectivement, c'est notre léthargie qui fait en sorte que nous continuons à nous retrouver dans cette situation.
Oui, Monsieur Henri Pacifique Mayala.
Comment pouvoir avancer?
Oui, au-delà de tout ce que vous dites ici, les humanitaires déplorent le fait qu'il y a de plus en plus de victimes dans la population civile. Et on voudrait comprendre si cela est fait sciemment. Comment expliquer cette stratégie qui consisterait à prendre les civils comme des cibles? C'est une stratégie qui viserait quoi? À votre avis, si cela est fait sciemment?
Je ne saurais pas affirmer que cela soit une stratégie qui vise directement les civils, parce que jusque-là, il a été documenté l'exemple récent, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Ils ont documenté que des parts et d'autres, des parties à ce conflit, ils ont causé des morts des personnes civiles. En tout cas, si on peut s'éloigner un peu de ce conflit du M23 sans pour autant s'en distancer, les personnes qui ont perdu la vie à Goma le 30 août 2023, ceux qui ont tiré sur ces gens-là étaient vraiment loin du M23. Donc, essayez de ne pas présenter le problème d'une façon holistique. Essayer d'en appeler aux affres ou de condamner qu'une seule partie sans pour autant vouloir admettre qu'il y a eu des bavures dans une autre partie ne va pas vraiment nous aider à avancer. Je ne crois pas que cela relève d'une certaine tactique militaire parce que ceux qui sont supposés protéger les populations civiles ont paradoxalement tué ces mêmes populations civiles. D'autre part, les acteurs illégitimes continuent aussi de tuer les mêmes populations civiles. Et ici, c'est là que peut-être va se dégager le rôle de cette communauté internationale. Il faut dire que le soft power de ce que peuvent apporter de part et d'autre la communauté humanitaire pour les populations sous emprise des acteurs illégaux, le M23, et en même temps, pour les populations qui sont sous la protection de l'acteur légitime supposé les protéger, c'est-à-dire le gouvernement, tous peuvent bénéficier du support que peut apporter la communauté humanitaire. Et c'est là que revient la plus grande question. Où en sommes-nous sur le niveau du cadre de coordination civilo-militaire sur l'acheminement de l'aide aux personnes dans les besoins. Cela, ce sont des questions qu'il faut ramener sur la table. Et non pas essayer de déformer les faits pour dire que, parce que nous sommes dans une situation post-électorale, alors une certaine partie essaye je rappelle que ce conflit, ça fait 2 ans depuis que ça a recommencé, et ce n'est pas comme si on n'a pas eu de pistes de solution à exploiter. C'est juste que l'intérêt ou, disons, les priorités de certaines personnes ne s'alignaient pas avec la souffrance des populations du Nord Kivu. Je continue de croire que si le gouvernement congolais se ressaisissait pour voir de façon logique et pratique les options sur la table, les efforts en place par la communauté internationale, comment pouvoir les maximiser. Parce qu'une autre chose, Bimadé, quand vous regardez les solutions auxquelles fait recours notre gouvernement, c'est la même chose. L'apport ou le déploiement de la SADC, en quoi c'est différent de ce qu'a représenté la MONUSCO? Et je reviens encore sur ce qui s'est passé en 2013. Donc, pour moi, je continue de croire que des paris d'autres, il y a eu des affres. Je ne crois pas que la tuerie des civils soit négligée ou prise en compte ou vouloir être assimilée à une tactique délibérée pour déstabiliser soit le gouvernement en place. Je n'aimerais pas partir sur une approche à équivaloir les acteurs, parce qu'il est clair qu'il y a un acteur illégitime et il y a un acteur qui dispose de la légitimité d'utiliser la force, mais si les voies de la force ne donnent pas de solution, est-ce qu'il m'empêcherait de pouvoir exploiter les autres mécanismes, incluant les acteurs qui viennent de dénoncer le nombre de déplacés qui est en train de croître?
Henri Pacifique.
J'espère dispose de cet outil, d'une part, les populations sous les zones occupées par le M23, ils ont besoin des services de base que le M23 ne peuvent pas leur apporter, et donc les humanitaires peuvent plus ou moins allier à cette situation, et d'autre part, du côté du gouvernement, les humanitaires constituent un partenaire, un interlocuteur, en tout cas assez sérieux, pour pouvoir aider à trouver cette solution.
Henri Pacifique. Et face à cette situation, quelle pourrait être la place, n'est-ce pas, de la diplomatie dans la résolution de cette question précise, celle de la protection des populations civiles?
Cher Guimaté, il est de toute évidence, mais il est clair, de plus en plus clair, que les présentateurs politico-diplomatiques présagent un aboutissement vers les négociations plutôt qu'à des confrontations continuelles. Il s'agit de vies humaines. C'est des responsables, pères de famille, parents, sœurs, mères, à des personnes qui sont en train de mourir. Il ne s'agit pas des mouches. Et à moins que nous ayons des diables face à face, je continue de croire que ici, je continue de croire qu'il s'agit ici de ramener. Oui, allô, du matin.
Allez-y, Henri Pacifique, allez-y. Allez-y.
Donc, moi, je continue de croire que, certes, la force dans la consolidation des efforts diplomatiques constitue un levier non négligeable, mais il est aussi évident que la République démocratique du Congo aujourd'hui, et je confirme que je suis congolais, et dire cela tout haut ne revient pas à aimer moins mon pays, il est clair que nous ne disposons pas de cet outil. L'efficacité des FRDC, qui n'est pas directement liée à leur technicité, mais beaucoup plus au soutien, à la nature du soutien dont ils ont besoin, et la nature du soutien qu'ils reçoivent des décideurs pour être plus efficaces sur le terrain, pourrait consolider nos efforts diplomatiques. Vu que nous n'en sommes pas là, un autre élément, preuve en tout cas, c'est que nous continuons à faire recours aux forces étrangères extérieures, aux forces force militaire extérieure pour essayer de combler à cette, de pallier à ce déficit. Il s'agit ici d'aligner notre diplomatie dans une certaine approche qui favorise nos intérêts, qui ne met pas en face des acteurs avec des intérêts qui se superposent, et essayer de mettre toujours en avant nos intérêts à nous. Parce que aujourd'hui, il ne fait pas sens de dire que voilà, la communauté humanitaire a été inefficace, la MONUSCO n'a pas su répondre à sa mission, et demain, pour faire campagne électorale, recourir à cette même MONUSCO pour organiser son transport. C'est quand même paradoxal.
Merci, on a compris, Henri Pacifique.
Que le dialogue a ou continue d'avoir sa place, et le gouvernement congolais devrait considérer que si les efforts par la force ne parviennent pas à donner des solutions, en tout cas jusque-là, nous ne les avons pas, nous n'allons pas continuer à perdre les concitoyens. Il s'agit des vies humaines ici, et il y a d'autres mécanismes à saisir. La diplomatie a encore sa place. Le président Kabila, à son époque, l'a fait avant d'embrasser ou de combiner la force avec la diplomatie. On ne devrait pas tenter sur une position qui ne donne pas les fruits.
On a compris. Merci beaucoup, Maître Jean-Paul Mboulumbu. La situation s'est dégradée. Il y a cette escalade de violences, tout simplement parce que certains acteurs politiques, leurs priorités n'ont pas cadré avec les préoccupations de la population, comme vient de les dire Henri Pacifique Mayala. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Alors, je crois qu'il y a deux ou trois mises en point qu'il faudrait faire avant de répondre à votre question. La première mise en point, c'est que je crois qu'Henri Pacifique fait une nette confusion, je le regrette, entre un communiqué de OCHA et ce qui pourrait être un communiqué de la MONUSCO. Il faut reconnaître que la République démocratique du Congo, en tant que membre des Nations Unies, a le droit de bénéficier de l'assistance humanitaire de tous les organismes et les systèmes des Nations Unies, parmi lesquels OCHA. Et lorsque OCHA fait un communiqué en faisant une sorte d'alerte sur la situation humanitaire, OCHA ne fait que jouer son rôle comme partenaire de la République démocratique du Congo dans le secteur humanitaire. Ça, c'est la première mise au point qu'il faut faire. La deuxième mise au point, c'est que en tant que étatique, je crois que il faut encourager la communauté internationale en tant que partenaire. Enfin, les arguments, ça dépend. Si vous êtes du côté du Rwanda, les arguments sont tout à fait autres. Mais si vous devez partager la misère de la population congolaise par rapport à ce qu'elle subit, par rapport au bombardement de l'armée rwandaise et du M23, les arguments sont tout à fait autres. Et Monsieur Pacifique, Henri Pacifique, est libre d'être de son côté. Mais moi, en tout cas, je suis du côté de cette population qui est victime au jour le jour de ce que nous subissons de la part d'un pays voisin. Et c'est pourquoi j'appuie totalement l'alerte qui est faite par un partenaire du gouvernement congolais. OCHA n'est pas adversaire du gouvernement congolais. OCHA joue son rôle en tant que partenaire du gouvernement congolais dans le secteur humanitaire pour la simple et bonne raison que la République démocratique du Congo est membre des Nations Unies et dans le secteur humanitaire à OCHA en tant que mécanisme du système des Nations Unies dans le secteur humanitaire. Il ne fait que jouer son rôle. Voilà pourquoi nous l'appuyons. Alors, vous dites que la situation s'est dégradée. Oui, la situation s'est dégradée. Nous sommes en train de le constater tous et nous sommes en train de condamner avec la dernière énergie la dégradation de la situation pour la simple et bonne raison que je l'ai dit. Cette dégradation vient de créer d'abord des morts. Nous déplorons plus d'une vingtaine de morts dans le Massissi, à Mouesso particulièrement. Nous déplorons plusieurs blessés et des millions de personnes déplacées de Mouesso vers d'autres entités et qui ont besoin de l'assistance de la communauté internationale et du gouvernement congolais. Condamnons également cette dégradation dans la mesure où elle est arrivée au moment où le gouvernement est en train de chercher à se réorganiser. Vous l'avez constaté aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale, le premier ministre qui a été élu comme député national doit devoir décider dans 8 jours s'il doit rester membre du gouvernement ou Premier ministre, c'est une situation transitaire dans laquelle les autorités congolaises sont appelées à fournir beaucoup d'efforts, mais c'est pendant cette situation-là que cette situation se dégrade. C'est pourquoi je dis que la situation n'est pas du tout fortuite, elle n'est pas gratuite.
Maître Elmouloum, je vous ai posé une question. Maître Elmouloum, je vous ai posé une question précise. Est-ce que les priorités politiques ou les intérêts politiques n'ont pas prévalu sur les préoccupations de la population qui est en train de subir, n'est-ce pas, les affres de la guerre, et ce qui expliquerait cette escalade dans la violence?
Mais franchement, si vous essayez d'analyser les faits depuis le premier quinquennat du chef de l'État, vous allez constater que c'est pendant son premier quinquennat que cette histoire qu'on appelait embargo sur les armes a été levée. Moi, j'appelais ça mesure de notification. Ça veut dire que c'est pendant le premier quinquennat du président Félix Tshisekedi qu'on a levé l'embargo, s'il faut appeler ça, sur les armes. Et qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en droit d'acheter des armes où il veut. Et je pense que le chef de l'État est en train de déployer assez d'efforts par rapport à l'achat des armes. Le chef de l'État est en train de déployer des efforts par rapport au recrutement des militaires dans l'armée congolaise. Et ces deux signaux-là démontrent que la question de la sécurité a toujours été la principale préoccupation du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent que suite à cette dégradation de la situation, on peut conclure directement et hâtivement que la situation sécuritaire n'a pas été comme une priorité dans le programme du premier mandat du chef de l'État. Et du reste, c'est pour ceux qui l'ont suivi dans les discours d'investiture. On comprend que parmi les six priorités qu'il prévoit, sur lesquelles il va travailler, la question de la sécurité occupe une place de choix. Et même aujourd'hui, la question de la diplomatie. S'il faut utiliser la diplomatie, évidemment, il y en a ceux qui pensent qu'il faut utiliser la diplomatie, mais je crois que l'arrivée de la force de la SADC sur le sol de la province du Nord Kivu démontre que le chef de l'État est en train de faire usage non seulement de la diplomatie, mais également qu'il voudrait faire valoir la montée à puissance des forces armées de la République démocratique du Congo pour en découdre une fois pour toutes avec l'armée congolaise qui s'occulte derrière le M23 et qui est en train d'assaisir jusqu'à aujourd'hui les populations congolaises, notamment dans les territoires de Masisi, dans les territoires de Rutshuru, pourquoi pas dans les territoires de Beni, où nous continuons à avoir des morts. Donc c'est pour dire que le communiqué de Bruno Le Marquis comme responsable de OCHA, je souligne, OCHA est un organisme partenaire de la République démocratique du Congo sur le plan humanitaire. Je ne trouve pas du mal qu'un partenaire soit en train d'alerter le gouvernement sur la nécessité de l'intervention. Et je souligne encore une fois qu'il faut dissocier un communiqué de OCHA et un communiqué de la MONUSCO. La MONUSCO qui n'est qu'une mission spéciale des Nations Unies qu'il ne faudrait pas distinguer avec les autres organismes du système des Nations Unies qui sont là, notamment le PNUD, l'UNICEF, le HCR.
Merci, mais vous n'allez pas rappeler tout ça. Oui.
De soutenir.
On n'a pas tout le temps.
Du Congo dans les différents secteurs.
Merci, Télésphore Mitondeke. Nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. Je rappelle que Télésphore Mitondeke, vous êtes rapporteur de la société civile des Masisi au Nord Kivu. Et au-delà de cet appel, de ces communiqués, n'est-ce pas, de OCHA, quelles sont les actions efficaces qui doivent être menées, n'est-ce pas, sur le terrain pour pousser les belligérants à ne plus prendre les civils, les populations civiles comme des cibles. Vous qui êtes sur le terrain.
Bien, je crois que tel que vous l'avez dit là tantôt, certainement les communiqués de OCHA revêtent un caractère qui appelle à la communauté dans l'ensemble à des interventions les plus urgentes possibles. Alors, vous avez parlé des mécanismes ou des stratégies à mettre en place pour une façon de durabilité en termes de solutions et que pour nous, personnellement, en tant que population victime, nous avons toujours rêvé obtenir en tout cas cette stabilité ou cette paix durable comme toutes les autres entités de la République démocratique du Congo. On ne rentre pas dans l'histoire pour rappeler autant de décennies à travers lesquelles les populations de cette partie de l'Est, en tout cas, sont restées sous un calvaire inédit. et que à notre niveau, il faudra qu'il y ait une prise de conscience d'abord à tous les niveaux. Et là, je parle du côté congolais. Lorsque je parle du côté congolais, je rentre dans le sens des institutions de la République. Chaque institution de la République devrait rentrer dans son état-major et se poser des questions sur exactement ce qui lui revient comme attribution. Donc, chaque secteur de la vie ou chaque institution de la République démocratique du Congo devrait rentrer dans ce sens-là de l'examen de la raison et de se situer par rapport aux attributions lui dévolues et aussi comprendre si est-ce que le modus operandi est appliqué. En tout cas, illustre un caractère de solution exactement durable aux problèmes qui gangrènent les populations congolaises. Là, je rentre dans le système de notre défense où il faut en tout cas beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts parce que lorsque nous sommes sur le terrain, nous avons pensé que depuis la communication sur la coordination, sur la mise en place de l'équipe de la coordination d'abord de la réserve armée, c'est une étape qui devrait être accélérée dans la mesure du possible et le plus urgent possible pour permettre à ce que tous les acteurs qui sont sur le terrain soient très bien structurés et aussi très bien coordonnés, parce qu'il se pose aussi à un certain niveau en fait un problème de structuration et de coordination de certains acteurs qui interviennent dans la défense et la sécurité dans notre région, c'est-à-dire en dehors des FARDC. Donc le FARDC a ses attributions, a aussi ses défis à relever. Je parle du système global de défense, donc à notre niveau, il faut appuyer ces éléments-là. Mais au grand sacrifice aussi consenti des gens par tous les acteurs-là qui se battent chaque jour, qui sont sur les lignes de front, il faudra que ces mécanismes également soient renforcés par la prise en charge ou alors la bonne logistique également. Donc il y a des questions en fait d'organisation et de structuration, voire de coordination, qui doivent être touchées à notre niveau dans notre système de défense et de sécurité pour donner en tout cas les réponses idoines à cette insécurité grandissante et qui persiste dans notre pays. Parce que si vous touchez aujourd'hui les conditions que traversent les populations, il vaut mieux chercher peut-être un autre concept et non pas la vie, parce qu'on a la vie que par les souffles de vie aujourd'hui, on ne sait plus vivre par les conditions humaines. Et ça doit révolter tous ceux-là qui détiennent la gouvernance sécuritaire dans notre pays. Nous sommes restés des zones d'urgence durant des décennies et on ne sait plus parler du développement ou des autres secteurs de la
Merci.
Vie. Si vous rentrez en territoire de Masisi aujourd'hui, imaginez-vous combien de milliers d'enfants, écoliers, étudiants et élèves au niveau secondaire ne savent plus les portes des écoles ou alors des auditoires, parce simplement ce sont des enfants renvoyés dans les déplacements vers les entités où ils n'ont pas accès aux services sociaux de base.
Merci Télésphore.
Imaginez-vous combien d'enfants il y a aujourd'hui, combien de sites de déplacés où on n'a ni installation hygiénique ni quoi que ce soit, les populations passent à la belle étoile.
Merci, on a compris.
Si on ne meurt pas par balle aujourd'hui, on meurt faute de soins de santé ou on meurt alors parce qu'on a manqué à manger. Pourtant, la population de cette partie du pays se prenait en charge avant que cette insécurité ne vienne s'imposer. Et que donc, au niveau du gouvernement, il faut en tout cas renforcer tous ces mécanismes-là. Mais également, il faudra que nos politiques qui sont, surtout je parle de ces moments à Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui aujourd'hui seraient dans la course de positionnement, de se rechercher quels seront les postes qui leur seront réservés dans les prochains gouvernements. Je les exhorte, ils doivent savoir que les populations au nord qui vous sont en train de mourir et qu'ils doivent privilégier.
Voilà, on a compris, Monsieur Télésphore Mitondeke. On considère ça comme votre conclusion. Henri Pacifique Mayala, après ces communiqués des acteurs humanitaires sur le terrain, qu'est-ce qui peut changer dans le sens, n'est-ce pas, de protéger les civils? Qu'est-ce qui peut changer? Est-ce que vous pensez que c'est le fait de faire ces communiqués-là pourrait pourrait, n'est-ce pas, pousser les gens à prendre des dispositions afin de, d'assurer davantage la protection des civils? Henri Pacifique.
Ah oui, Guy Maté. Cette émission revêtant aussi. Oui, vous me suivez?
Allez-y.
Donc, je disais que cette émission revêtant aussi d'un caractère pédagogique, je voudrais soulever que le Bureau intégré des Nations Unies travaille à la coordination des activités des Nations Unies dans les pays. Et M. Bruno Lemarquis, qui a signé ce communiqué, il porte triple casquette. Il est le représentant spécial adjoint de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Il est le coordonnateur résident et il est le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo. Pour revenir sur ce communiqué issu du bureau du coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, à moins que Maître Lumbulumbu ne fasse allusion à un communiqué différent, vous allez voir que le coordonnateur humanitaire a souligné le fait qu'il est crucial de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires, ainsi que la sécurité des civils. Et la question revient, qui est garant de la sécurité des civils? Qui est garant de la sécurité des travailleurs humanitaires? Cela se fait à travers le mécanisme de coordination civilo-militaire. Qui est garant d'implanter ou d'implémenter ces mécanismes-là? Quelle est la responsabilité de la République démocratique du Congo pour, dans la facilitation de ce partenaire qui est en train de décrier les challenges auxquels il est en train de faire face dans l'accomplissement de sa mission? C'est ça la question. Et ici, il faudrait que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Je ne tolérerai jamais cette invasion rwandaise, mais autant je ne mettrai jamais à mettre les faits sur la réalité, à marier les faits sur le terrain avec les promesses, surtout issues de nos dirigeants. Le dire de cette façon-là ne veut pas dire que moi je prendrai parti de l'agresseur. Il est clair que le Rwanda nous agresse. Cependant, il faut se poser cette question sur notre responsabilité.
Et donc, vous voulez dire par là, parce qu'on n'a pas assez de temps, vous voulez dire par là que vous voulez dire par là que les dirigeants congolais devraient prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas, pour sécuriser davantage les populations civiles. N'est-ce pas ce que vous voulez dire? Parce qu'on n'a pas assez de temps.
Tout à fait, il y a cet acteur disposé à nous accompagner. Mais il faut que nous aussi, de notre côté, puissions jouer notre rôle.
Merci. Merci, on a compris. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, on est à la fin de l'émission. Après ces communiqués des humanitaires, est-ce que vous pensez que les autorités congolaises ou les différents acteurs sur le terrain ont bien compris, n'est-ce pas, ont bien cerné les messages des humanitaires et que ils sont prêts, n'est-ce pas, à prendre des initiatives afin de sécuriser davantage la population civile?
Alors, je vais faire ma conclusion à deux ou trois points.
On peut aller droit au but parce qu'on n'a plus assez de temps. Hein. On est à la fin de l'émission. Oui. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît.
Oui. Les institutions congolaises savent très, très bien que la question de la sécurité des populations ainsi que de leurs biens et de leurs compétences, et cela est bien souligné par la Constitution. De deux, les autorités congolaises savent que la sécurité du personnel des humanitaires se trouvant sur leur sol et de leurs compétences également. Ça, je crois que l'autorité et le gouvernement congolais le sait. Et ce que j'apprécie, et en termes de conclusion, c'est cette alerte d'un partenaire gouvernemental qui tient à alerter son partenaire sur le fait qu'il y a nécessité d'insister sur l'assistance humanitaire de déplacer qui sont victimes de bombardements, mais également sur la nécessité de sécuriser le personnel humanitaire. Et ça, c'est la chose la plus importante que je note dans le communiqué de OCHA, qui est un partenaire du gouvernement. Et c'est en cela que j'invite en même temps le gouvernement central, j'invite l'Assemblée nationale, j'invite le Sénat, j'invite toutes les autres institutions à s'approprier ces communiqués de Bruno Le Marquis et d'intervenir le plus rapidement possible, surtout, surtout en faveur de milliers de déplacés, des Congolais, qui sont obligés aujourd'hui de passer la nuit à la Belle Étoile à la suite des nouveaux bombardements de l'armée rwandaise occultée derrière le M23.
Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté, n'est-ce pas, d'y participer. Merci aussi à toute l'équipe qui était avec moi, Kéline Kouté, Alain Ngoy, Clément Chimanga, Jonathan Fanani, Hervé Voka, sous la supervision des Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.